Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ensemble, ils ont imaginé le Festival international de cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un ministre et un haut fonctionnaire chargés de faire rayonner la culture française. Mais un événement mondial les a empêchés d'aller au bout de leur projet.
Les raviolis Buitoni.
Oh non Stéphane, pire encore, la guerre, la grande guerre. Stéphane Bern a juste sa queue de pie et nous raconte deux hommes qui se sont pris les pieds dans le tapis. Jean Zay et Philippe Erlanger.
Nous sommes le 3 septembre 1938. Voilà plusieurs heures maintenant que Philippe Erlanger ne parvient pas à trouver le sommeil dans le train de nuit qui le ramène de Venise à Paris. Ce haut fonctionnaire, lettré et historien, dirige l'Association française d'action artistique qui a pour but de faire rayonner la culture française. C'est à ce titre et en tant que représentant de la délégation hexagonale qu'il vient de participer à la célèbre Mostra de Venise, festival international du film créé 6 ans plus tôt, en 1932. Le festival est terminé et Philippe Erlanger est quelque peu affligé car cette 6e édition fut marquée par la soumission de l'art aux considérations politiques. En effet, sous la pression de Joseph Goebbels, sinistre ministre de la propagande du Troisième Reich, le Grand Prix a été remis ex aequo à un film allemand, un documentaire à la gloire du régime nazi et à un film italien produit par le propre fils de Mussolini, dirigeant de l'Italie fasciste. En signe de contestation, deux membres du jury, un Anglais et un Américain, ont carrément démissionné. La délégation française, elle, est restée, mais Philippe Erlanger repart vers Paris, dépité. Il est un amoureux de culture et de cinéma et ne peut accepter cette compromission avec les régimes autoritaires qu'il méprise. Triste pour l'indépendance créatrice qui vient d'être bafouée sous ses yeux, c'est aux premières lueurs de l'aube que, comme il l'écrira lui-même, à défaut d'un songe, lui vient une idée. Et si, pour contrer le fourvoiement de la Mostra de Venise, la France crée un autre festival international du film. Un festival du monde libre, où le goût et l'esthétique seraient les seuls critères d'appréciation pour récompenser et magnifier l'art cinématographique. De retour à Paris, Philippe Erlanger soumet l'idée à l'autorité publique qu'incarne notamment Jean Zay, alors ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts. L'homme est un cinéphile passionné qui croit en l'éducation par la culture. Il est rapidement séduit par la volonté de célébrer le cinéma en outrepassant les velléités propagandistes et totalitaires. Mais l'heure en Europe n'est pas à la fête. Le Troisième Reich est de plus en plus menaçant sur ses voisins, même si en septembre 1938, les accords de Munich parviennent un temps à stopper la menace de guerre généralisée en livrant une partie de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne nazie. La France du gouvernement Daladier joue de tout son poids en faveur de l'apaisement, d'aucuns parlent plutôt d'humiliation, et le président du Conseil rechigne à valider l'idée d'un nouveau festival du film qui pourrait irriter le puissant et belliqueux voisin allemand. On ne va tout de même pas me risquer une guerre pour le cinéma. Hitler n'a pourtant besoin de personne pour relancer les hostilités. Son armée envahit la Tchécoslovaquie à peine 6 mois plus tard. Le gouvernement Daladier réalise que la détente n'est plus possible. La guerre gronde. Dans ce cas, autant faire du cinéma une arme et de la culture un étendard. Le festival doit avoir lieu. Philippe Erlanger et Jean Zay en seront les deux principaux artisans. Pendant que le premier parcourt la France à la recherche d'une ville susceptible d'accueillir l'événement, le second part aux États-Unis pour s'assurer de la participation des grands studios américains qui règnent déjà sur le 7e art. Pour ce faire, Jean Zay accepte de lever les quotas qui limitent alors l'exploitation des films étrangers. Le ministre ouvre le marché français. Hollywood soutient le nouveau festival. Philippe Erlanger, de son côté, visite Aix-les-Bains, Vichy, Deauville, puis Biarritz, qui semble un temps être retenu pour accueillir les festivités. Mais c'est finalement la Côte d'Azur qui sera choisie. À Cannes, chic cité balnéaire, le puissant syndicat des hôteliers flaire les retombées financières et propose de prendre une partie de l'événement à sa charge. L'affaire est entendue. Le soleil de la Méditerranée et la baie de Cannes seront l'écrin du nouveau festival, prévu pour le mois de septembre 1939, dans seulement 4 mois. Or, tout reste à construire. Entre juin et septembre, Cannes vit dans une effervescence qui parvient d'un temps à faire oublier que la guerre gronde de plus en plus fort. Les hôteliers se préparent et une large équipe technique entreprend des travaux dans le casino municipal pour le transformer en palais des festivals avec une salle de projection de plus de 1000 places. Les infrastructures émergent, les instances se mettent en place même si d'aucuns en viennent à douter de la faisabilité du projet en si peu de temps. Philippe Erlanger préside au comité de sélection. L'Italie et l'Allemagne déclinent l'invitation pendant que de nombreux pays annoncent leur participation. La France, bien sûr, la Pologne, l'URSS, la Tchécoslovaquie, alors que le pays n'existe plus, quasi annexé au Troisième Reich, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis avec 12 films, notamment Le Magicien d'Oz, l'une des premières productions qui bénéficie de toute l'étendue technique de la couleur. Le 6 août 1939, celui qui est considéré comme l'inventeur du cinéma, Louis Lumière en personne, vient visiter les installations et est annoncé pour présider le festival. Durant le mois d'août, toutes les vedettes se pressent à Cannes. Les studios américains affrètent même un paquebot spécial pour faire voguer toute la crème d'Hollywood vers la Côte d'Azur. Le 22 août, la grande salle du Palm Beach, somptueux hôtel cannois, accueille un dîner de gala qui se veut une répétition générale de la soirée d'inauguration prévue une grosse semaine plus tard. L'acteur Fernandel anime l'événement, 5 orchestres divertissent les convives, les verres teintent, les diamants brillent et les feux d'artifice éclairent la ville. Mais l'orage commence à tonner sur la baie. Rapidement, c'est le chaos. Tout le monde court s'abriter de la pluie et du vent. La soirée finit en fiasco. Mauvais présage. Le lendemain, la presse annonce la signature du pacte germano-soviétique. La guerre n'est plus un sourd rugissement. Elle sera bientôt un véritable fracas. Le 1er septembre, jour supposé de l'ouverture du festival, l'Allemagne envahit la Pologne. En France, on décrète la mobilisation générale. Jean Zay démissionne pour intégrer l'armée et annonce la suspension du festival. La guerre emporte tout. À la fin du conflit qui a posé une chape de plomb sur l'Europe, Philippe Erlanger relance le festival qui n'a pas eu lieu. La première édition se tient en septembre 1946. Jean Zay n'en profitera malheureusement pas. Il fut assassiné par la milice de Vichy en 1944. Mais c'est bien le festival dont il fut l'un des principaux maîtres d'œuvre, et non la guerre, qui continuera d'embraser Cannes jusqu'à nos jours avec l'éclat que l'on connaît.